Merci d'être là, Jean-François, d'avoir quitté votre Québec
pour
le Grand Montréal. Ouais. Vous êtes également psychologue, en plus d'être auteur, conférencier, musicien. Et dans ce tout nouveau livre, vous m'avez appris un terme, la ludification, qui signifie prendre un problème et le transformer en jeu.
Tout à fait.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais le témoignage d'une femme qui, suite à un diagnostic de cancer et qui devait subir ou avoir des traitements de radiothérapie tous les jours. Quand elle se rendait à l'hôpital, elle s'y rendait à la course. Elle se disait « Ainsi, j'ai pas l'impression de me rendre à l'hôpital, à mes traitements, mais je cours 7 km tous les jours. » C'est un petit peu ça, la ludification.
Tout à fait. C'est se réapproprier sa liberté de jouer comme un sujet joue avec un obstacle, plutôt comme un objet qui subit l'obstacle. Parce que dans le livre, essentiellement, ce que je dis, c'est soit on joue, soit on est joué. Devant un obstacle, la maladie, peu importe quoi, est-ce que je vais apprendre à dealer avec, composer avec ou subir cet événement-là? Puis quand on dit jouer ici, là, c'est sérieux jouer. Regardez un enfant, c'est très sérieux un enfant qui joue. Donc je ne veux pas dire que c'est léger. Je veux dire qu'on se réapproprie sa liberté d'être créateur devant l'événement qui risque de nous déstabiliser.
Je le disais en intro, ça peut nous apprendre des choses sur soi-même. Vous parlez beaucoup aussi des émotions qui expriment des besoins.
Tout à fait.
On n'a pas tendance à voir nos émotions comme ça, mais peut-être plus comme des obstacles. Des fois, on veut les refouler.
Tout à fait. Donc, moi, le discours que j'ai, d'ailleurs, tout ce jeu, Vincent, c'est un discours d'espoir. C'est de l'espoir que je veux proposer aux gens. D'aller au-delà de la catégorisation des émotions. On a tendance à dire une émotion positive, négative. La façon dont j'aborde le problème, ou en fait la situation, c'est quand on dit qu'une émotion est négative, ça m'informe que mon besoin est négativement satisfait. Par exemple, quand j'ai peur, ça m'informe que mon besoin de sécurité est négativement satisfait. Ça ne veut pas dire que la peur, c'est mauvais comme émotion. Ça m'informe, ça me donne l'information. Les émotions, c'est le CNN de l'inconscient, si vous me permettez. Ça donne de l'information sur ce qui se passe en dedans. Donc, si je le juge, je n'entendrai pas. Donc, être à l'écoute. D'ailleurs, c'est ce que je propose, moi, comme thérapeute, d'être curieux. Soyons curieux des symptômes, soyons curieux de ce qui nous arrive, soyons curieux des émotions qui nous déstabilisent, plutôt que les juger, plutôt que les différencier en bon, pas bon, mal, pas... Donc, voilà.
Au même titre que notre rapport aux autres.
Ah, surtout. Parce que très rapidement, on met une étiquette sur l'autre. Très rapidement, on a des bons, des mauvais. Et donc, à la limite, même si la personne en face de moi, elle est mauvaise, entre guillemets, elle me met des obstacles. Donc, elle m'aide à jouer aussi, même si elle n'est pas dans mon équipe.
Ouais.
Elle m'aide à jouer pareil. Donc, oui, c'est d'avoir un discours au-delà de la catégorisation, au-delà du bon, du pas bon. D'ailleurs, la notion d'être bon, c'est pas ça le jeu. C'est pas d'être bon, c'est de jouer. Hein? L'enfant qui joue, il joue pour jouer, pas pour être bon. Il apprend tranquillement dans une société d'hyper-performance à être bon. Mais là, enfin, il joue pour jouer. Et ça, c'est ça dans le livre, il y a quelque chose que je voulais vous faire ressortir, c'est la perte de la gratuité dans nos vies. C'est-à-dire faire quelque chose gratuitement juste pour le faire. Pas parce que je vais avoir un résultat quelconque, juste pour le plaisir de le faire.
Je vous écoute et je me rends compte, et ça se dégage dans votre livre, Jean-François Vézina, c'est que quand on joue à un jeu vidéo, on aime ça, les obstacles, justement.
Ben,
et dans la vie, on tente de les éviter.
Et ce qui est intéressant, c'est très pertinent ce que vous soulignez là, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir peur des obstacles de la vie réelle et ils vont se réfugier dans le jeu vidéo parce qu'ils ont un sentiment de contrôler les obstacles. Mais quand je dis soit on joue, soit on est joué, ce qui caractérise une personne qui joue vraiment, c'est qu'elle fait face aux obstacles plutôt que fuir les obstacles. Donc, le jeu vidéo, je l'explore comme possibilité d'explorer. Quand j'ai des consultations, par exemple, avec des jeunes, je suis curieux. Est-ce qu'il est en train de fuir quelque chose? Mais effectivement, vous le soulignez, même si je fuis, il veut retrouver des obstacles. C'est juste qu'il a l'impression de contrôle. Le jeu vidéo lui donne une impression de contrôle, alors que c'est souvent une illusion.
Ça revient souvent aussi ce parallèle-là avec l'enfance, que les enfants sont peut-être nos meilleurs modèles pour réapprendre à jouer.
Ah, tout à fait.
On peut comment observer, nous, on a tous des enfants, soit on est parents, soit on a cette chance, mais sinon, il y a
On a tous été enfants.
On a tous été enfants.
Et on peut le devenir encore.
Comment on peut les observer pour peut-être se réapproprier ça dans notre quotidien?
Il y a un poète québécois, Christian Vézina, qui a dit une super phrase que
c'est
j'adore.
Votre
non, j'aimerais ça qu'il soit dans ma famille, mais en tout cas, peut-être éloigné. Il dit « La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr. » La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr. Donc, cette vivacité d'esprit, cette curiosité, cet éveil, cette poésie qu'il y a dans l'enfance... qui progressivement disparaît, elle disparaît parce qu'on se met à avoir peur. Mm-hmm. Peur du ridicule. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je fais ça? Et donc, progressivement, c'est la peur qui prend le dessus sur l'élan naturel de l'enfant de jouer avec tout ce qui est devant lui, puis la poésie naturelle de l'enfant aussi. Alors moi, c'est un livre d'espoir. Je dis, il n'est jamais trop tard pour être un enfant. Il n'est jamais trop tard pour réallumer cette petite étincelle phare. Le phare, il est très présent dans ce livre-là. C'est un symbole très important dans ma vie.
Mais c'est la genèse du livre.
Tout à fait. Je suis commencé avec une anecdote très, très simple. Les deux derniers gardiens de phare qui rendent les phares du Cordouan, un très, très beau phare de France. Et donc, ils rendent les clés du Cordouan parce que le métier de gardien de phare n'est pas à date. C'est plus utile. Et je trouve qu'il y a là une métaphore, parce qu'à partir de là, tous les phares de la planète sont automatiques, sont automatisés. Et là, ça invite à une question. Est-ce que moi, dans ma vie, je suis automatisé? Est-ce que moi, dans ma vie, je fais que des choses utiles, que des choses rentables, que des choses... Et je trouve qu'effectivement, dans notre société, on ne prend pas le temps de faire des choses pour le plaisir ou pour, juste pour le faire. On est souvent très automatique comme des phares automatisés. Alors oui, c'est l'anecdote du point de départ de mon livre.
Et si je ne me trompe pas, on appelle les phares en haute mer les enfers.
Génial.
Donc, vous posez cette question, est-ce que l'enfer est automatisé?
C'est intéressant, vous le faites souvenir, parce que c'est le nom des phares. Les phares les plus éloignés, les enfers, les phares sur des îles purgatoires, puis des phares sur une terre ferme, on les appelait les paradis dans la nomenclature des phares, oui.
Ce qui est mentionné également, parce que vous aimez les mots, vous aimez jouer avec les mots également, ça ressort beaucoup dans Tout se joue avant 100 ans, il y a le refus ou l'échec qui peut être un rebond même.
Moi, ma vie est un paquet de refus. Effectivement, j'étais refusé en psychologie. Ce manuscrit, au début, c'était...
Ça a été refusé par tous les éditeurs, oui.
Alors, je me suis dit, peut-être que dans le mot « refusé », il y a le mot « fusée » quelque part. Alors oui, je me suis mis... Comme ce livre-là, d'abord, donc c'était un conte. Et c'est devenu ce que j'appelle un essai psychophilo-poétique. Mm-hmm. Donc oui, j'ai caché de la poésie du conte « Gardien de phare » qui était refusé. Mais donc, ouais, c'est ça, le jouer avec l'obstacle. Il y a quelque chose qui m'est refusé, c'est un obstacle. Comment je vais composer avec ça? Donc, il y a ça, le refus. Il y a aussi la mort de mon père qui a inspiré l'écriture de ce livre-là aussi. La mort, c'est, si on veut parler du sens du jeu de la vie, la mort, c'est quand même, ça nous confronte à une réalité de la limite de notre temps de jeu. Quand je dis tout ce jeu avant 100 ans, c'est qu'un temps de jeu illimité. Hein? On va s'entendre. On ne pourra pas jouer tout le temps. Donc, c'est peut-être le temps de commencer.
Et de se rapprocher de ce qu'on a envie de faire, simplement pour le faire, et de s'éloigner. Ça m'a pris du temps à comprendre le jeu de mots de l'île faux.
Ben
vous
oui.
décrivez l'île faux comme une île où on se contraint à faire des choses parce qu'il se doit.
Et c'est intéressant que ça vous a pris un certain temps avant de l'enregistrer parce qu'on est une société dans laquelle l'île faux est cachée. J'appelle ça les vapeurs de l'île faux qui sont cachées quelque part. C'est quand j'écoute quelqu'un, moi comme thérapeute, j'écoute quelqu'un, le nombre de fois où il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça. Où est-ce qu'il y a le « je désire »,« je veux » Où est-ce qu'il y a le « je » dans le « il » Le « il », c'est qui ça, « il » On ne sait pas c'est qui ça, « il ». Donc, souvent, j'observe derrière, puis ça, c'est le paradoxe de notre société actuelle, on se prétend individualiste, mais on est extrêmement conditionné par les « il faut que je mette mon iPhone à jour, il faut que je m'achète telle chose, il faut que... » Donc, c'est épuisant, l'il faut.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que je veux? De retrouver un « je », c'est un processus qui est extrêmement important aujourd'hui. Mm-hmm. Retrouvons, puis c'est pas de l'égocentrisme ici, c'est l'idée de retrouver une présence unique, un jeu. D'ailleurs, le jeu, je fais le jeu de mots, un jeu, c'est un petit jeu qui vient jouer avec un grand U,
le grand U
de l'universel. Mais quand le jeu, il est trop collé sur le U, il n'y a pas de jeu entre le U, hein? Qu'est-ce qui arrive quand un jeu qui est trop collé sur le U? Il n'y a plus de jeu avec le U. Alors, il est pris dans l'universel. Le terroriste, qu'est-ce qu'il fait, le terroriste? Il est collé sur son livre. Il n'y a pas de jeu entre lui.
Et dans l'île faux.
Et il est dans l'île faux complètement. Le terroriste, il a peur, mais il ne sait pas qu'il a peur. Donc là, il se fie à des livres. Il colle son... Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Quelqu'un qui a peur, mais qui ne sait pas qu'il a peur.
Mm-hmm.
C'est la racine du terrorisme. C'est des gens qui ne portent pas leur peur.
Et vous posez cette question-là, et ça revient avec l'introduction où l'on parlait du nom effarant d'heures consacrées aux jeux vidéo, qui est un espace virtuel, donc individuel ou peut-être parfois aussi, mais comment on fait pour l'amener du point de vue collectif?
C'est une belle question. Quand je vois un jeune qui se réfugie dans le jeu vidéo, à la fois, on voit qu'il est tout seul, mais il y a un désir de connexion à quelque chose qui est plus grand que lui.
Ouais.
Et c'est ce qui nous amène à explorer qu'est-ce qu'on cherche dans nos cellulaires, qu'est-ce qu'on cherche. Peut-être qu'on cherche une forme de transcendance, peut-être qu'on cherche une forme de connexion réelle avec l'autre. Bien sûr, le moyen nous donne une illusion de connexion à l'autre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le désir derrière. Et je ne juge pas ce désir-là. Il y a un désir de connexion, il y a une soif, il y a une faim de connexion. Mm-hmm. Au-delà d'un monde sans fil, c'est paradoxal, on vit dans un monde sans fil, mais on n'a jamais été aussi emmêlé que dans un monde sans fil. Mais donc, il y a une recherche de connexion qui est là. Et c'est ça, retrouver le jeu, c'est ça. C'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire?
Et vous donnez des petits trucs. Moi, j'aime beaucoup ce qui est concret. À un moment donné, quelque chose que j'ai trouvé hyper flyé, Jean-François Vézina, que je pense que j'aurais pas l'audace de faire. Vous imaginez dans le métro, ben, soit vous ou soit votre lecteur, finalement, et il y a deux figures de cas. Justement, la personne dont on parlait ensemble qui est rivée à son écran, son cellulaire, son ordinateur, sa tablette, et l'autre qui décide d'aller vers... L'autre.
C'est loin l'autre. Il est loin l'autre dans un métro.
Et de poser des questions. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ça peut être... On peut faire ça, vous pensez?
Je ne sais pas si c'est faux. Mais j'invite à vivre l'expérience de ce que ça me fait. Parce que quand je suis rivé sur mon écran d'ordinateur, je ne prends pas conscience que j'ai peur de l'autre. Ma tablette, c'est un peu comme une doudou, comme un objet transitionnel qui me donne une impression de sécurité. Donc, je n'ai pas conscience que j'ai peur de l'autre. Donc, c'est une invitation à qu'est-ce que je ressens quand je suis dans un métro. Parce que si je suis toujours en train d'avoir peur, mais je ne sais pas que j'ai peur, je perds ma vie, je perds. Il y a quelque chose qui est vivant qui se perd. Donc, oui, d'explorer qu'est-ce que ça me fait d'aborder un inconnu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais explorer ce que ça me fait à l'intérieur de moi, la possibilité d'entrer en connexion avec quelqu'un d'autre.
Vous m'avez fait voyager avec cet exemple de bague. Si on la tourne, on devient invisible.
Ah, ça, c'est basé sur, vous savez, le Seigneur des Anneaux, on pense qu'il a inventé Tolkien. C'est basé sur une mythologie, le roi Gigès. Roi Gigès, qui est un Lydien. Les Lydiens, c'est eux qui ont inventé les jeux. Hein. Je laisse les gens aller voir le livre. Si... Les Lydiens viennent de Ludus, Ludothèque, tout ça. Donc oui, Gigès, c'est un roi qui a trouvé une bague et qui, quand il tourne la bague, il devient visible. Quand il tourne dans l'autre sens, il devient visible. Alors, il s'est dit, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir d'être invisible. Je vais prendre ce pouvoir d'être invisible puis je vais m'emparer du royaume. Alors oui, il y a un jeu philosophique ici et j'invite les gens à faire un trou dans le livre, sentir ce que ça fait de faire un trou dans un livre aujourd'hui et de se faire une bague magique.
Un livre qui est à nous.
Oui, mais c'est ça qui est le paradoxe. À partir du moment où je déchire ma page ou je fais un trou dedans, il est à moi. À partir du moment où je dessine, je salis mon livre avec un crayon, il est propre à moi. On appelle ça l'obsolescence programmée. Hein. L'obsolescence programmée, j'ai un iPhone, il est fait pour qu'il soit plus bon dans un an. Mais ce livre-là, il est fait pour qu'il soit plus bon une fois que vous allez le déchirer pour les autres. Mais il va être bon pour vous, ce livre-là.
Et le jeu dans votre livre, Jean-François, ça peut permettre d'entrer plus en contact, bien sûr, avec soi, mais avec le couple aussi. Comment réinventer son couple?
À l'approche de la Saint-Valentin, vous touchez quelque chose de très important. Moi, comme thérapeute, le sport national du couple, après un certain temps, c'est de vouloir avoir raison. C'est-à-dire, je veux avoir raison. On appelle ça les jeux de pouvoir. Ouais. 75% des couples se perdent dans les jeux de pouvoir. J'ai fait un autre livre qui s'appelle L'aventure amoureuse où j'ai illustré ça comme la jungle des jeux de pouvoir, où on est pris dans « je veux avoir raison à tout prix ». Le but de mon jeu avec l'autre, c'est d'avoir raison. Bien, si votre but c'est d'avoir raison, vous allez avoir raison, mais vous n'aurez plus de relation. Donc oui, puis c'est paradoxal parce que le couple commence dans le jeu. On commence dans l'esprit du jeu.
Le jeu de la séduction.
Le jeu de la séduction, tout ça. Puis on passe du pouvoir du jeu à deux au jeu de pouvoir. Alors oui, je propose dans mon livre de passer des jeux de pouvoir au pouvoir de jouer à deux. Mais ça veut dire accepter de prendre des risques, ça veut dire accepter de prendre des chances. Je propose un jeu qui est assez audacieux dans tout ce jeu avant 100 ans, mais qui m'est inspiré par Esther Perel. Esther Perel qui a écrit un livre superbe, qui s'appelle L'intelligence érotique. Elle propose aux couples qui ont plus de désir de se réinventer une correspondance érotique.
Oui. Mm-hmm.
C'est audacieux, je leur propose ici. Inventez-vous un compte de courriel.
Juste pour vous deux.
Juste pour vous deux, pour rejouer avec vos fantasmes. Inventez-vous un personnage si vous voulez. Et donc, oui, c'est des jeux audacieux. Mais c'est ça. Si je veux vraiment retrouver le plaisir de jouer, c'est accepter le risque aussi.
Et sans juger l'autre.
Soit qu'on joue, on juge. C'est effectivement.
Ouais. On vient d'aborder ensemble, les minutes fil, plein de types de jeux.
Ouais.
Le jeu virtuel, le jeu de la séduction, le jeu des pouvoirs. Est-ce que c'est toujours... Il y en a plein de formes. Est-ce que c'est toujours positif, le jeu? Je pense, bien sûr, au jeu pathologique. C'est abordé également dans votre livre.
Ce qui caractérise le jeu pathologique ou la dépendance, c'est quand je suis intime avec mes désirs, donc quand je suis capable d'être en contact avec ce qui est là, je vais jouer avec ce qui est là. Si je ne suis pas intime avec mes désirs, si je ne suis pas intime avec ce qui est là, tout mon jeu va porter à fuir ce qui est là. Soit je joue, soit je suis joué. Alors, ce qui conduit vers la dépendance pathologique, c'est que je suis continuellement en coupure avec ce qui est là, que ce soit par les moyens Internet, drogue, ça. Donc, la racine de l'addiction ou la dictature, c'est qu'il y a un régime de peur à l'intérieur. La dictature, c'est ça. Il y a un dictateur qui s'appelle la peur. Donc, si je veux jouer, rester en contact avec ce qui est là. Si je veux fuir la réalité, à ce moment-là, il y a des chances que je sois dans l'addiction parce que je suis toujours en train de fuir la réalité.
Et vous invitez vos lecteurs à accepter leur manque, à les aimer aussi.
Moi, je pense qu'on donne le mieux ce qui nous a le plus manqué.
Mm-hmm. Oui, ça, je m'en rappeler, Jean-François Vigilant. Quelle belle leçon. J'aimerais terminer en vous posant une question que vous posez d'entrée, en fait, assez rapidement dans le livre, la question phare du jour, qui peut changer constamment. Quelle est la vôtre aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'être vivant?
On va se laisser là-dessus. Jean-François Vizina, vous êtes auteur, psychologue, conférencier, musicien. Vous étiez là pour nous parler de Tout se joue avant 100 ans. C'est publié aux éditions de l'Homme, mais on peut aller sur votre site jfvizina.net.
Moi, je donne une conférence à Montréal mardi prochain. Si les gens veulent venir, tout sur mon site, au Centre Saint-Pierre mardi prochain.
Ah, c'est à côté d'ici en plus.
Voilà, mardi.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.